Première partie. Éléphant. Chapitre 3. Manuel de savoir-faire de Tantalis.
Mademoiselle Livingstone, pourriez-vous me dénicher mon carnet d'adresse?
Il est sur votre bureau, Madame Oliver, au bord, à gauche.
Celui-là, ce n'est pas le bon, s'énerva Madame Oliver. C'est le carnet dont je me sers en ce moment. Moi, je vous parle du précédent, celui de l'année dernière.
À moins que ce ne soit de l'année avant.
Peut-être a-t-il été jeté, suggéra Mademoiselle Livingstone.
Non, les carnets d'adresse ou autres, je ne les jette jamais. On peut en avoir besoin à tout bout de champ, ne serait-ce que pour retrouver une adresse qu'on a oublié de recopier dans le nouveau.
À mon avis, il se promène dans un des tiroirs de classeurs.
Mademoiselle Livingstone, qui remplaçait Mademoiselle Sedgwick, était une recrue d'assez fraîche date. Ariane Oliver regrettait Mademoiselle Sedgwick. Mademoiselle Sedgwick avait la science infuse. Elle savait d'instinct où Madame Oliver posait parfois distraitement ses affaires et dans quel genre d'endroit bizarroïde il advenait qu'il lui prenne soudain la désastreuse lubie de les ranger. Elle se rappelait le nom des gens auxquels Madame Oliver avait envoyé des missives aimables et le nom de ceux à qui, poussée à bout, la romancière avait expédié des épîtres frisant la grossièreté. Mademoiselle Sedgwick était une perle, ou plutôt avait été. Elle faisait penser à... Comment s'appelait ce manuel, déjà? Se demanda Madame Oliver en fouillant sa mémoire.
Oh, pourtant, je sais ça par cœur. Ces gros bouquins marrons. Pas un foyer victorien qui ne possédât le sien.
Tout sur tout. Et ce n'était d'ailleurs pas de la blague. On y apprenait tout. Comment faire disparaître les traces de roussi sur le linge fraîchement repassé? Comment rattraper une mayonnaise? Comment trousser une lettre familière à un évêque? Des tas et des tas de choses. On trouvait tout dans tout sur tout. Ça avait été le livre de chevet de Tantalis. Mademoiselle Sedgwick avait été aussi précieuse que la Bible de Tantalis. Quant à Mademoiselle Livingstone, c'était une autre paire de manches. Mademoiselle Livingstone était toujours plantée là, avec sa mine de 100 pieds de long, son teint cireux et ses airs de prétendue efficacité résolument affichés. Tous les traits de son visage proclamaient « Je suis l'efficacité incarnée ». Dieu sait pourtant que ce n'était pas le cas, songeait Madame Oliver. Mademoiselle Livingstone savait seulement où ses précédents employeurs écrivassiers rangeaient leurs affaires, et où elle considérait visiblement que Madame Oliver aurait dû s'astreindre à ranger les siennes.
« Ce que je veux, » lança Madame Oliver avec l'obstination d'un enfant gâté, « c'est mon carnet d'adresse de 1970. » Et sans doute aussi celui de 1969. Voudriez-vous me chercher ça le plus vite possible, je vous prie?
Bien sûr, répondit Mademoiselle Livingstone. Elle jeta autour d'elle le regard passablement vide de quelqu'un qui cherche un objet dont il entend parler pour la première fois, mais que ses talents hors du commun risquent de faire soudain surgir du néant par un coup de chance inespéré.
Si je ne récupère pas Sedgwick, je vais devenir enragé, se dit Madame Oliver en son fort intérieur. « Sans Sedgwick, je ne vais jamais pouvoir me sortir de mon enquête. »
Mademoiselle Livingstone commença à ouvrir les divers tiroirs des éléments composant le mobilier de ce que Madame Oliver appelait pompeusement son bureau et sa salle d'écriture.
« Voilà celui de l'année dernière, » annonça-t-elle d'un ton guilleret. « Il sera bien plus à jour, non ? 1971. »«
Je n'ai pas besoin de 1971, » répliqua Madame Oliver.
De vagues idées et réminiscences lui revinrent.
Regardez dans le cabaret à thé, conseilla-t-elle.
Mademoiselle Livingstone regarda autour d'elle, la mine inquiète.
Ce petit meuble-là, lança Madame Oliver avec un grand geste du bras.
Un répertoire, ça ne se range pas dans un cabaret à thé, décréta Mademoiselle Livingstone, énonçant pour son employeuse une des grandes lois de l'existence.
« Il pourrait y être quand même, » rétorqua Madame Oliver. « Je crois m'en souvenir. »
Écartant Mademoiselle Livingstone de son chemin, la romancière marcha jusqu'au petit meuble, souleva l'abattant et regarda la ravissante marqueterie qui en ornait l'intérieur.
« D'ailleurs, il y est, » triompha-t-elle en ôtant le couvercle de la boîte cylindrique en papier mâché, censée contenir du lapsang souchong et non du thé indien. Elle en retira un petit calepin marron racorni. « Le voilà !»«
Ce n'est que celui de 1968, Madame Oliver. Ce carnet date de 4 ans. »
« C'est à peu près ce qu'il me faut, » répondit la romancière en rapportant le calepin à son bureau. « Ce sera tout pour l'instant, mademoiselle Livingstone. Mais peut-être pourriez-vous me trouver mon album d'anniversaire quelque part. » « Je ne savais pas que... »« Je ne m'en sers plus, » coupa madame Oliver, « mais autrefois je le tenais à jour. C'est un assez gros volume, je vous préviens. Je l'avais entamé quand j'étais enfant. Il couvre plusieurs années. Je pense qu'il doit être tout là-haut, dans le grenier. » Vous savez, celui qui sert parfois de chambre d'amis quand il vient seulement des garçons pour les vacances ou des gens qui ne s'en formalisent pas. Dans l'espèce de coffre ou d'écritoire à côté du lit. Ah, vous souhaiteriez donc que je monte voir? Tout juste, répondit madame Oliver. Une fois mademoiselle Livingstone sortie, la romancière s'anima un peu. Elle ferma soigneusement la porte, retourna s'installer à son bureau et entreprit de parcourir les adresses rédigées d'une encre, à présent fanée et en pestant le thé. Ravenscroft. Celia Ravenscroft. Oui, c'est ça. 14, Fish Acre Mews, Londres, SW3. L'adresse de Chelsea. C'est bien là qu'elle habitait à l'époque. Mais il y en a eu une autre par la suite, quelque chose comme Strand-on-the-Green, près de Kew Bridge. Elle tourna quelques pages de plus. Ah, voilà, celle-ci a l'air d'être postérieure. Mardyke Grove. C'est dans le quartier de Fulham Road, me semble-t-il. En tout cas, par là-bas. Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone? Ça a été effacé plusieurs fois, mais j'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Flaxman. Après tout, rien ne m'empêche d'essayer. Madame Oliver se dirigea vers le téléphone. La porte s'ouvrit alors et mademoiselle Livingstone passa la tête dans l'entrebâillement. « Vous ne pensez pas que peut-être... »« J'ai trouvé l'adresse qu'il me fallait, » annonça madame Oliver. « Continuez à chercher l'album d'anniversaire, c'est important. »« Vous ne pensez pas que vous auriez pu l'oublier à Silly House ?»« Non, » répliqua madame Oliver, « continuez à chercher. » Comme la porte se refermait, elle ajouta à voix basse, « Et prenez tout votre temps. » Là-dessus, elle composa le numéro de téléphone, puis tout en attendant... Elle ouvrit la porte et cria dans l'escalier. « Vous pourriez peut-être jeter un coup d'œil dans ce coffret espagnol, celui à ferrure de cuivre, vous savez? Je ne sais plus où il est. Sous la table de l'entrée, j'imagine. » Le premier appel de madame Oliver fut vain. Apparemment, la romancière était tombée chez une certaine madame Smith Potter, personne aussi malgracieuse que peu obligeante, et qui ignorait tout de l'actuel numéro de téléphone de quelque précédent occupant que ce fût. Madame Oliver se replongea dans le carnet. Elle découvrit deux autres adresses griffonnées à la hâte par-dessus d'autres numéros, mais qui ne se révélèrent pas d'une grande aide. Toutefois, à la troisième lecture, un Ravenscroft, passablement illisible, émergea des ratures, initiales et adresses. Une voix jeune et féminine, au bout du fil, affirma connaître Célia. « Oh là là ! Bien sûr, mais ça fait des années qu'elle n'habite plus ici !» « La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, il me semble qu'elle était à Newcastle. »« Zut !» s'écria madame Oliver. « J'ai bien peur de ne pas avoir cette adresse-là. »« Et je ne l'ai pas non plus, » déclara l'aimable jeune personne. « Je crois qu'elle était allée s'installer là-bas pour devenir secrétaire d'un vétérinaire, mais c'est tout ce que je sais. » Cela n'avait rien de très encourageant. Madame Oliver tenta encore une ou deux fois sa chance. Les adresses relevées dans ces deux derniers carnets se révélant infructueuses, elle remonta un peu plus dans le temps. Elle fit mouche, si l'on peut dire, en arrivant au dernier de ces carnets, celui de l'année 1967. « Ah, c'est de Célia que vous parlez !» lança une voix de contralto. « Célia Ravenscroft, vous dites ? Ce n'était pas plutôt Bancroft ?» Madame Oliver se retint au moment même où elle s'apprêtait à lancer « Non, ni Ravensban non plus !» « Une fille très compétente, » reprit la voix. « Elle a travaillé pour moi pendant un an et demi. »« Oui, très compétente. »« J'aurais eu grand plaisir à la garder plus longtemps. »« Je crois qu'elle m'a quitté pour je ne sais quel cabinet de Harley Street. »« D'ailleurs, il me semble que j'ai noté ses coordonnées quelque part. »« Attendez voir. » Un long silence suivit pendant que Madame X, non inconnue, vérifiait. « En effet, j'ai une adresse. Ça a l'air de se situer dans les parages d'Islington. Ça vous paraît plausible ?» Madame Oliver déclara que tout pouvait l'être, remercia chaleureusement Madame X et prit note de ce qu'elle lui dictait. « Quel casse-tête, n'est-ce pas, quand on veut retrouver l'adresse de quelqu'un ?» commenta encore son interlocutrice anonyme. Quand ils en changent, les gens vous envoient en général la nouvelle. Sur ces espèces de cartes postales, vous voyez. Pour ma part, je finis toujours par les perdre. » Madame Oliver avoua qu'elle aussi était affligée du même travers. Puis elle essaya le numéro d'Islington. Une voix teintée d'un fort accent étranger lui répondit. « Oui, vous vouloir quoi? Vous dire quoi? Oui? Qui ça? Qui habitait ici? Mademoiselle Celia Ravenscroft. Ah oui, c'est tout justement ça, oui. Oui, elle habitait ici. Elle a voir la chambre au deuxième étage. Pour le moment, elle est sortie, elle n'est pas rentrée. Est-ce qu'elle sera là un peu plus tard dans la soirée? Oh, elle est là très bientôt maintenant, je pense, parce qu'elle devoir rentre s'habiller pour une fête et sortir. » Madame Oliver remercia son interlocutrice et raccrocha. « Quand même !» s'écria-t-elle à sa propre intention, et non sans un certain agacement. « Suffit !» Elle tâcha de se rappeler combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'elle avait vu sa filleule Celia. On se perdait de vue. C'était bien le problème. Pour le moment, se dit-elle, Celia habitait Londres. Pour peu que son petit ami ou que la mère de son petit ami y habite aussi, tout se tenait. « Misère, songea Madame Oliver, tout ça me donne vraiment la migraine. » « Oui, Mademoiselle Livingstone, » fit-elle en tournant la tête. Cette dernière, l'air passablement égaré, couverte de toiles d'araignée et d'une couche de poussière uniforme, était plantée dans l'embrasure de la porte, la mine contrariée, les bras chargés d'une pile d'ouvrages poussiéreux. « Je doute que vous arriviez à trouver quoi que ce soit là-dedans, Madame Oliver. Apparemment, ça remonte à une éternité. » Le ton était réprobateur. « Il faudra pourtant bien, » rétorqua Madame Oliver. « Je me demandais si vous souhaitiez que je recherche quoi que ce soit de précis. »« Je ne pense pas, non, » répondit Madame Oliver. « Si vous voulez bien poser tout ça là, au bout du canapé, je regarderai ce soir. » « Très bien, Madame Oliver, » reprit Mademoiselle Livingstone, dont la mine se faisait plus réprobatrice de minute en minute. « Mais je crois que je vais d'abord y passer un coup de chiffon. »« Ce serait très aimable de votre part, » commenta la romancière en se retenant in extremis d'ajouter. « Et je vous en prie, passez-vous un coup de chiffon aussi. Vous avez une demi-douzaine de toiles d'araignée dans l'oreille gauche. » Elle consulta sa montre et rappela le numéro d'Islington. Ce fut cette fois une voix purement anglo-saxonne qui lui répondit, avec une fraîche vivacité que Madame Oliver trouva plutôt plaisante. « Mademoiselle Ravenscroft ?»« Celia Ravenscroft ?»« Moi-même ?»« Voilà, je ne pense pas que vous... que tu te souviennes très bien de moi. Je suis Madame Oliver. » « Ariane, Oliver, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, mais en fait, je suis ta marraine. »« Ah, mais si, bien sûr. Comment aurais-je pu oublier? Mais ça fait une éternité, en effet. Je me demandais s'il me serait possible de passer te voir, ou si tu aurais la possibilité de faire un saut chez moi, ce qui t'arrangera. Tu pourrais peut-être venir déjeuner, ou... Eh bien, en ce moment, ce n'est pas très commode à l'endroit où je travaille. Je pourrais faire un saut chez vous ce soir, si vous voulez. » Aux alentours de 7h30, 8h, j'ai un rendez-vous un peu plus tard, mais ça me ferait très, très plaisir de te voir ce soir, déclara Madame Oliver. Alors je viendrai, bien sûr. Je vais te donner l'adresse. Madame Oliver la dicta à sa filleule. Bon, je passerai. Oui, oui, je vois où ça se trouve, je vois très bien. Madame Oliver griffonna un petit memento sur le carnet du téléphone, puis décocha un regard passablement agacé à Mademoiselle Livingstone, qui venait d'entrer dans la pièce en titubant sous le poids d'un grand album. « Je me demande si ce ne serait pas ça, Madame Oliver. »« Non, ce n'est pas ça, » trancha la romancière. « Il n'y a là-dedans que des recettes de cuisine. »« Mon Dieu !» gémit Mademoiselle Livingstone. « C'est pourtant vrai. »« Allons, je pourrais toujours en parcourir quelques-unes, » décida Madame Oliver en s'emparant du livre. « Retournez voir. » « Figurez-vous que j'ai pensé à la penderie, la pièce attenante à la salle de bain. Il faudrait que vous jetiez un coup d'œil à l'étagère du haut, au-dessus des serviettes de toilette. Il m'arrive parfois d'entasser là-dedans journaux et livres. Attendez une minute, je vais monter fourrager dans tout ça moi-même. » 10 minutes plus tard, Madame Oliver parcourait les pages d'un album jauni. Mademoiselle Livingstone, qui venait d'atteindre au stade ultime du martyr, se tenait debout, figée près de la porte. Incapable d'endurer plus longtemps le spectacle d'une telle souffrance, Madame Oliver lança « Bon, c'est parfait. Peut-être pourriez-vous aller voir dans le secrétaire de la salle à manger, le secrétaire ancien, vous savez, celui qui est un peu bancal. Voyez si vous arrivez à trouver encore quelques carnets d'adresses, de plus anciens. Tout ce qui date d'une dizaine d'années méritera qu'on y jette un coup d'œil. Je pense qu'ensuite, ajouta la romancière, ce sera tout pour aujourd'hui. Mademoiselle Livingstone quitta la pièce. Je me demande, se dit Madame Oliver en poussant un profond soupir en même temps qu'elle s'asseyait et se mettait à feuilleter l'album d'anniversaire, je me demande laquelle de nous deux éprouve le plus grand soulagement, elle de partir ou moi de lui voir les talons. Quoi qu'il en soit, quand Célia sera passée, je vais avoir une soirée chargée. Prenant un cahier de brouillon neuf au sommet de la pile qui trônait toujours sur une petite table à côté de son bureau, Madame Oliver y nota diverses dates, adresses et noms possibles, chercha une ou deux précisions dans l'annuaire téléphonique, puis appela Hercule Poirot. « Ah, c'est vous, Monsieur Poirot ?»«
En effet, madame, c'est moi-même. »«
Avez-vous fait quoi que ce soit ?» demanda Madame Oliver.
« Plaît-il ? Ai-je fait quoi ?»«
Quoi que ce soit, » répéta Madame Oliver, « concernant ce que je vous ai demandé hier. »«
Oui, bien sûr, j'ai mis l'affaire en train. » Et j'ai pris les dispositions nécessaires en vue de diverses recherches.
Recherches que vous n'avez pas encore entamées, cependant, compléta Madame Oliver, qui nourrissait une piètre opinion de la conception masculine de l'action.
Et vous, très chère madame?
Je me suis démenée, annonça Madame Oliver.
Ah, et en quoi cela a-t-il consisté?
J'ai recensé des éléphants, expliqua Madame Oliver. « Si toutefois vous voyez à quoi je fais allusion ?»«
Oui, je crois comprendre ce que vous entendez par là. »«
Consulter le passé n'a rien de très aisé, » reprit la romancière. « C'est stupéfiant, vraiment, de constater combien d'individus en arrivent à se remémorer en recherchant des noms. Et bon sang, quelle bêtise les gens écrivent parfois dans les albums d'anniversaire. Je n'arrive pas à comprendre ce qui me poussait quand j'avais 16, 17 ans, voire 30, à demander aux gens d'y apporter leur contribution. » On y trouve même une espèce de citation de poète pour chacun des jours de l'année, et certaines sont d'une niaiserie ahurissante.
Cela vous encourage dans vos recherches?
Ce n'est pas vraiment que ça m'encourage, répondit Madame Oliver, mais je continue à penser que je suis sur la bonne voie. J'ai passé un coup de téléphone à ma filleule.
Ah, et vous allez la voir?
Oui, enfin, c'est elle qui vient me voir. Ce soir, entre 7 et 8, à moins qu'elle ne me fasse faux bond. On ne sait jamais. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont versatiles au possible.
Elle paraissait contente de votre coup de téléphone?
Je n'en sais trop rien, répondit Madame Oliver.
Mais pas particulièrement, non.
Elle a une voix très incisive. D'ailleurs, ça me revient à présent. La dernière fois que je l'ai vue, ce qui doit remonter à 6 ans environ, je l'avais trouvée plutôt intimidante.
Intimidante? À quel point de vue?
Disons qu'elle semblait plus à même de me houspiller que moi de lui rendre l'appareil.
« Il se peut que ce soit une bonne chose, et non une mauvaise. »«
Ah, vous croyez ?»«
Quand les gens ont décidé de vous prendre en grippe, quand ils sont sûrs de ne pas pouvoir vous souffrir, ils prennent aussitôt un plaisir fou à vous le faire savoir, et dans leur élan, vident beaucoup plus facilement leur sac qu'ils ne l'auraient fait en vous couvrant d'amabilité. »«
Plus qu'en vous léchant les bottes, vous voulez dire ?»«
En effet, il y a du vrai là-dedans. »
En tâchant de se montrer agréable, les gens tiennent des propos dont ils espèrent qu'ils feront plaisir à leur interlocuteur. Tandis que dans l'autre cas de figure, l'interlocuteur les agace, donc ils lui débitent des vérités dont ils espèrent qu'elles le contrarieront.
Je me demande si Célia est comme ça.
En fait, je me souviens bien mieux d'elle quand elle avait 5 ans qu'à n'importe quel autre âge. Elle avait alors une préceptrice. Elle lui lançait ses chaussures à la tête.
La préceptrice ou la gamine ?
« La gamine, bien sûr !» s'offusqua Madame Oliver. Elle raccrocha, puis alla inspecter les divers mémoires de jadis entassés sur le canapé, tout en marmonnant les noms à mi-voix.
« Mariana Joséphine Pontarlier. Oui, bien sûr, voilà des années que je n'avais pas repensé à elle. Il me semblait qu'elle était morte. Anna Braceby. » Ah oui, elle vivait dans le même coin, à l'étranger. Je me demande si maintenant...
À poursuivre ainsi, l'heure avança, et Madame Oliver fut toute surprise d'entendre la sonnette de l'entrée. Elle alla ouvrir elle-même.